Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Alia Tovin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme tous les vendredis, notre semaine s'achève par un débat d'actualité économique. Aujourd'hui, c'est l'économie britannique dans la tempête du Brexit que nous allons examiner. À une semaine de la date fatidique, la Première ministre Theresa May a demandé ce matin à Bruxelles de repousser une nouvelle fois l'échéance au 30 juin prochain. L'objectif, éviter à tout prix une sortie sans accord qui risquerait de bouleverser l'économie du pays. La Première ministre cherche à faire accepter aux parlementaires britanniques l'accord conclu avec Bruxelles qu'ils ont déjà rejeté trois fois. Un climat de grande incertitude qui coûterait chaque semaine l'équivalent de 700 millions d'euros au Royaume-Uni, selon une étude de Goldman Sachs publiée il y a quelques jours. Alors quel sera le coût réel du Brexit pour le Royaume-Uni et pour l'Europe ? L'économie britannique sera-t-elle frappée de plein fouet si aucun deal n'est trouvé ? Et quelles alternatives à un Brexit dur sont encore possibles ? Voilà les questions que nous allons poser à nos trois invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Gunther Cappel-Blanquart nous plonge dans l'autobiographie intellectuelle de Richard Thaler, l'un des pères de l'économie comportementale. Trois invités autour de la table donc. Bonjour Catherine Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes économiste au département analyse et prévision de l'OFCE et spécialiste du Royaume-Uni. À vos côtés, Jimmy Zhu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé et correspondant Brexit pour le cabinet international de conseil aux entreprises PwC France. Et on sera rejoint dans quelques instants par Anne-Laure Delatte, directrice adjointe du Centre d'études prospectives et d'information internationale et responsable du programme de recherche macroéconomie et finances internationales. Je sais que certains en ont tellement assez des retards et des disputes sans fin qu'ils aimeraient partir sans accord la semaine prochaine. J'ai toujours été clair sur le fait que nous pouvions faire d'une sortie sans accord un succès à long terme. Mais partir avec un accord est la meilleure solution. Nous aurons donc besoin d'un nouveau report de l'article 50. Un report aussi court que possible et qui prendra fin lorsque nous aurons conclu un accord. Et nous devons être clairs sur le but d'une telle prolongation. S'assurer que nous partons en temps opportun et de manière ordonnée. Le discours de Theresa May, mardi devant la Chambre des communes. Un premier mot d'abord sur cette demande de la Première ministre de repousser le Brexit au 30 juin. Theresa May cherche à gagner du temps pour que les négociations avec Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition travailliste, finissent par aboutir, Catherine Mathieu.
Effectivement, Theresa May se trouve dans une situation particulièrement difficile puisque le projet d'accord qu'elle a signé avec l'Union européenne en novembre dernier a été rejeté trois fois par le Parlement britannique et que ni Theresa May ni le Parlement britannique dans sa grande majorité ne souhaitent qu'il y ait une sortie sans accord. Donc il faut arriver à trouver un accord. Et effectivement, la phase actuelle des négociations se passe entre Theresa May et Jeremy Corbyn qui essayent de trouver un accord, sachant que tous les deux sont dans des situations difficiles parce qu'à l'intérieur du Parti conservateur, il n'y a pas d'accord sur le type de sortie qu'il faudrait pour le Royaume-Uni. Ça, on le sait maintenant depuis de nombreux mois. Certains conservateurs sont pour une sortie directe sans accord, d'autres souhaitent qu'il y ait une sortie avec accord, d'autres souhaitent qu'il n'y ait pas de sortie. Mais chez les travaillistes, qu'on a moins entendu en fait depuis, au cours des dernières semaines,
il y a aussi
des divisions importantes. Mmh. Et donc dans les discussions qui ont lieu aujourd'hui entre Theresa May et Jeremy Corbyn, un point important pour une partie des travaillistes est que Jeremy Corbyn conditionne tout accord qu'il ferait avec Theresa May à un nouveau vote, ce que ne souhaite pas a priori Jeremy Corbyn, ce que ne souhaite pas non plus une partie des travaillistes. Donc la situation est véritablement compliquée pour Jeremy Corbyn comme pour Theresa May.
Alors la question qui se pose, c'est est-ce que l'Union européenne pourrait accepter cette demande de Theresa May, sachant que le président du Conseil européen, Donald Tusk, va soumettre aujourd'hui aux États membres de l'Union européenne le scénario d'un report flexible du Brexit allant jusqu'à 12 mois. Votre sentiment, Jimmy Zhu ?
Mais la question de savoir est-ce qu'il pourrait le faire, oui, évidemment, l'Europe pourrait évidemment proposer cela. La question, c'est est-ce qu'elle devrait le faire. Nous, aujourd'hui, le monde des entreprises en a un peu marre de cette saga, si vous voulez, qui dure depuis très longtemps. Ce texte était prêt, ça a pris quand même beaucoup de temps pour toutes les entreprises pour se préparer à cet accord. Tout le monde est déjà prêt. Bon, d'abord on dit une première fois c'est repoussé, une deuxième fois c'est repoussé, la troisième fois c'est rejeté. À un moment il faut que ça s'arrête si vous voulez, parce que ce qui coûte encore plus cher pour une entreprise c'est l'incertitude. Donc on a un accord aujourd'hui et puis si on est dans une situation de Brexit dur, on a d'autres accords finalement qui vont se déclencher.
Ce que vous voulez dire c'est que dans le monde des affaires il y a un certain nombre d'entreprises qui préféreraient un Brexit dur parce que précisément ça serait un Brexit qui interviendrait dans une semaine et pas dans une date peut-être imprévisible.
Exactement, parce qu'on pense finalement que tout cela va être très dur à très court terme, mais qu'à moyen terme et à long terme avec la Grande-Bretagne on va réussir à travailler très vite ensemble. Donc plus tôt on passera ce moment dur dans le cadre de Brexit dur, mais plus tôt on pourra commencer à construire une nouvelle relation avec quand même notre meilleur cousin.
Alors on va revenir évidemment sur cette question d'un hard Brexit et des conséquences économiques et du coût qu'il pourrait représenter, mais d'abord ce qu'il faut peut-être préciser, Catherine Mathieu, c'est que si jamais ce report est accepté par l'Union Européenne, et je vous repose la même question, est-ce qu'elle devrait accepter, le Royaume-Uni serait alors obligé d'organiser des élections européennes?
Oui, alors c'est pour cela que Theresa May dit aujourd'hui, enfin a écrit à Donald Tusk en disant qu'elle souhaitait un report jusqu'au 30 juin, qu'elle ne souhaitait pas qu'il y ait d'élections, enfin que le Royaume-Uni prenne part à des élections européennes. Ça c'est tout à fait cohérent avec la position qu'elle a depuis 2016 de dire le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, donc nous ne présenterons pas de candidats aux élections européennes. Mais aujourd'hui tout de même, ce qu'écrit Theresa May, c'est qu'au cas où elle n'ait pas réussi à obtenir d'accord avec les travaillistes et de façon générale avec le Parlement britannique, elle prévoirait d'organiser des élections si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Donc je pense qu'elle ne ferme la porte à rien en fait aujourd'hui, sauf que effectivement les délais sont très courts parce que les élections parlementaires ont lieu le 23 mai ou entre le 23 mai et le 26 mai selon les pays. Et donc la date du 30 juin est vraiment la dernière date possible pour que le Royaume-Uni sorte avant que le Parlement européen se réunisse pour la première fois dans sa nouvelle composition.
Et alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que les incertitudes liées au Brexit coûtent déjà cher à l'économie britannique. Dans l'article que vous avez écrit avec Henri Sterdignac, Catherine Mathieu, vous relevez qu'entre 2005 et 2015, le Royaume-Uni a connu une croissance plus importante que celle de la zone euro. Or, depuis le référendum de 2016, la croissance britannique est inférieure à celle de la zone euro. Alors, dans quelle mesure ce ralentissement est-il lié au Brexit, Catherine Mathieu ?
Alors, il est lié en partie au Brexit, mais je dirais pas uniquement, parce qu'en fait, on a eu une économie britannique qui a connu un cycle de reprise depuis la crise de 2008 qui était beaucoup plus rapide que d'autres pays de la zone euro, en particulier que la France ou que l'Italie, qui est d'ailleurs toujours dans la crise. En fait, une trajectoire de croissance qui était à peu près équivalente au Royaume-Uni à celle de l'Allemagne. Donc effectivement, quand on regarde la performance moyenne du Royaume-Uni depuis le référendum, on voit que la croissance a été plus faible au Royaume-Uni qu'en moyenne dans la zone euro. Quand on regarde au cours des 6 derniers mois, on voit quand même qu'il y a un ralentissement dans certains pays de la zone euro, à commencer par l'Allemagne aujourd'hui, qui est vraiment dans une situation de net ralentissement et qui est un ralentissement plus rapide qu'au Royaume-Uni. Donc je dirais en partie, l'économie britannique a ralenti sous l'effet du Brexit et elle a ralenti surtout, je dirais, au début, parce qu'il y a eu une baisse de la livre sterling dans un premier temps après le vote qui a augmenter les coûts des produits importés et augmenter et de ce fait ralentit le pouvoir d'achat des ménages et la consommation des ménages. Ça, c'était le premier effet négatif du vote de 2016 sur l'économie britannique. Et puis, depuis, un investissement des entreprises qui est très atone. Effectivement, les entreprises, comme vous le disiez tout à l'heure, Jimizou, sont dans une situation où c'est tellement incertain qu'elles attendent avant de prendre des décisions d'investissement.
Et alors ce qu'on voit effectivement, c'est que ces conséquences économiques sont déjà là en partie, Jimizou, et en même temps, on assiste à une bataille d'études et de chiffres qui disent à peu près tout et son contraire. Ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver.
Oui, tout à fait. Enfin, ce que vous dites qui est très juste, aujourd'hui cette incertitude, en effet, c'est bien aujourd'hui, il se trouve que les entreprises elles n'osent plus se rapprocher, elles n'osent plus investir. Vous avez eu des entreprises de l'automobile, par exemple, récemment, vous voyez Nissan, qui disait que finalement, bon, on va garder l'existant, pour les modèles existants, on va rester en Grande-Bretagne. Par contre, pour tous les nouveaux modèles, on ira plutôt en Europe, voire même même à l'extérieur de l'Europe. Donc aujourd'hui, cette incertitude, ça crée une forme d'immobilisme. Et quelque part, la Grande-Bretagne paye justement cet immobilisme. Je pense qu'il faut très vite qu'on arrête, enfin qu'on soit sûr, de manière en fait à reconstruire ce que sera le nouveau schéma économique. Juste un rappel quand même, ces dates du 12 avril avaient été choisies pas tout à fait par hasard. Le 12 avril, c'était la date limite où juridiquement la Grande-Bretagne devait annoncer si elle participait ou pas aux élections. Voilà. Donc maintenant on dit oui, alors finalement oui, juridiquement, on peut essayer de revoir. Bon. Tout cela, quand même, ça traîne beaucoup.
Il me semble, je ne suis pas juriste, mais il me semble que juridiquement, il n'y avait pas cette contrainte. En fait, depuis de nombreuses semaines, les experts juridiques de la Commission européenne avaient dit qu'il y avait jusqu'au 30 juin pour que le Royaume-Uni puisse sortir de l'Union européenne. Mais lorsque le Conseil européen s'est réuni dernièrement, il y a eu l'inquiétude qu'en fait, le Royaume-Uni prenne du temps pour se décider et éventuellement qu'on soit dans une situation où le 23 mai, on ne sache toujours pas si le Royaume-Uni allait sortir de l'Union européenne ou pas. Et donc cette date, pour moi, a été fixée véritablement de façon politique, en particulier par la France.
Enfin, pour la France, c'était elle. La France se rattachait à un article juridique de l'époque.
Bon, alors après, le choix de la date n'est peut-être pas le point central. Alors Anne-Laure Delatte nous a rejoint autour de la table. Bonjour Anne-Laure Delatte.
Bonjour, pardon pour le retard.
Mais je vous en prie, merci d'être avec nous. Alors on a vu un petit peu les différentes conséquences économiques qui existaient déjà depuis le référendum de 2016 et les difficultés de Theresa May actuellement qui essaye de négocier avec Jeremy Corbyn pour trouver un accord. Alors quels sont aujourd'hui les différents scénarios possibles? Il y a d'abord l'hypothèse d'un maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière, à laquelle Theresa May s'est finalement ralliée contre l'avis d'une partie de son propre camp. Et ça, c'était l'un des points centraux de l'accord du 25 novembre, Anne-Laure Delatte.
Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que, bon, d'abord, il y a eu pas mal d'allers-retours dans ces négociations, évidemment, mais ce qu'on avait compris, c'est que ce backstop, le filet de sécurité, ne concernerait que l'Irlande. Et finalement, on revient avec dans la négociation avec une solution où l'ensemble du Royaume-Uni arrive dans l'union douanière. Alors, c'est une solution qui leur coûte moins cher économiquement. On pourra revenir sur ces chiffres après, mais c'est évidemment une solution qui coûte moins cher que le no deal, absolument, puisqu'il y a moins de coûts, il y a moins de barrières, en fait, au commerce dans cette solution-là.
Ça permet un accès au marché unique assez libre.
Alors, assez libre, mais avec des inconvénients. Dans les inconvénients, notamment, c'est que ils ne pourront pas négocier des accords bilatéraux commerciaux, par exemple avec l'Inde, parce que ils auront des accords avec nous, notamment cette union douanière. Ça veut dire qu'on a des tarifs, des droits de douane en commun, ensemble. Donc à la fois ça résout une partie du problème irlandais, mais pas entièrement, et de l'autre, ça empêche le Royaume-Uni de signer ces fameux accords bilatéraux. Pourquoi c'est un problème ? Parce que les conservateurs, ceux qui veulent un hard Brexit, ils ont, si vous voulez essayer de convaincre leurs électeurs, ils leur ont promis qu'on allait revenir à un contrôle, notamment contrôle commercial, qu'on allait pouvoir faire ce qu'on veut. C'est-à-dire un discours très proche de Trump. Et en réalité, ils ne vont pas pouvoir faire ça. Donc ils vont se retrouver dans une situation, si ça passe, on se retrouve dans une situation qui à la fois coûte un peu moins cher qu'un hard Brexit, mais qui politiquement va dans le sens inverse des arguments du vote de 2016.
Alors non seulement effectivement il y a l'impossibilité de signer ces accords, mais il y a aussi le fait que le Royaume-Uni, si cet accord passait, va devoir se plier aux règles européennes et tenir compte des arrêts de la Cour de justice, alors même qu'il perd tout pouvoir de décision dans les instances européennes, Catherine Mathieu.
Alors peut-être on peut préciser que dans l'accord de novembre, il y a quasiment 600 pages qui sont consacrées à la sortie ordonnée du Royaume-Uni, donc à la question des droits des citoyens, au montant de la facture, du solde des comptes que le Royaume-Uni devra payer en quittant l'Union européenne, et la question effectivement de la frontière irlandaise. Mais pour ce qui concerne la relation à long terme, on ne fait que l'évoquer dans le cadre de la déclaration politique et, comme il était dit à l'instant, en évoquant une union douanière. Mais rien n'est totalement figé dans cet accord. Donc, la question de l'union douanière, effectivement, est arrivée plus tôt, je pense, que souhaitaient les pays de l'Union européenne, parce qu'il y a cette question irlandaise et que si on veut éviter le retour d'une frontière dure entre les deux Irlandes, il faut trouver une solution pour maintenir les échanges de façon fluide. Mais ensuite se pose effectivement la question de la relation économique qui se mettra en place entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, sur l'union douanière, pour l'instant, il y a de grands désaccords chez les Britanniques, que ce soit chez les conservateurs ou chez les travaillistes, on n'est pas nécessairement pour cette union douanière. Donc Anne-Laure en parlait un instant pour le côté des hard Brexiteurs, mais chez les travaillistes, on ne souhaite pas non plus nécessairement cette union douanière. Donc il est important, enfin je pense que ça révèle qu'on n'a pas assez discuté jusqu'à présent de la future relation en fait. Hein. L'Union européenne a dit aux Britanniques... Vous avez décidé de sortir. On ne va parler d'abord que de la question du retrait, mais toutes ces questions d'organisation à plus long terme du modèle économique et financier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, on n'en a pas véritablement parlé aujourd'hui.
Mais alors, ce que le Royaume-Uni a obtenu dans les négociations face à l'Union européenne, c'est le fait de pouvoir mettre fin à la libre circulation des personnes entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et ça, on sait que c'était une revendication importante des pro-Brexit. Jimizou, on voit que ça a été... l'objet de négociations très fortes, cet accord du 25 novembre, oui. Et même si c'est plus intéressant peut-être économiquement pour le Royaume-Uni, comme le disait Anne-Laure Delatte, on voit que l'accord est encore loin d'avoir une certaine unanimité.
Oui, soyons clairs, le meilleur accord qui existe, c'est bien l'accord du 25 novembre, mais à condition qu'il soit enfin voté. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on va dans le bon sens, si vous voulez. N'oubliez pas non plus, et cela il faut aussi l'avoir en tête, il y a les élections européennes du 23-26 mai, et puis il y a surtout, si vous voulez, une montée du populisme qui est de plus en plus importante. Donc si jamais cela donne l'impression que l'Europe est une vaste cacophonie, qu'on n'est pas capable finalement d'avoir des règles et de les respecter en plus juste après, je vous dis que ça va coûter très très cher, même au-delà de ce sujet de Brexit.
Vous dites qu'on ne va pas dans le bon sens, mais le premier vote par rapport à cet accord, c'était 202 voix contre, ensuite 242 voix pour, ensuite 286. Alors on approche petit à petit des 317 voix qui sont la majorité qui permettrait de valider cet accord. Alors on peut se demander s'il va être soumis une quatrième fois et cette fois être validé.
Oui, exactement. Puis on avait dit la même chose. Hein. On savait, on pensait le second, puis le troisième, puis le quatrième. Je vois que là ça discute puisqu'on voit qu'on approche du mur, évidemment. Je le rappelle encore une fois, la plupart des banques, hein, donc il y a quand même 269 institutions financières qui ont déjà déplacé leur siège en Europe, elles sont déjà prêtes, elles. Hein, elles sont déjà prêtes, elles ont déplacé une partie de leur population, pas tout, mais elles attendent quand même de savoir la vraie date, elles ont créé des licences. Enfin, nous, ça fait deux ans qu'on accompagne des banques, justement, pour se préparer à ce nouveau schéma. Le problème qu'elles ont aujourd'hui, c'est qu'elles n'activent pas la dernière bascule, parce que justement, elles attendent cette date. Alors évidemment, si on était sûr, si vous voulez, qu'une date se serait choisie, je ne sais pas, moi, le 22 mai, ou voire même le 30 juin, pourquoi pas ? Aujourd'hui, ça ne prend pas le bon sens. Voyez-vous, ça ne prend pas le bon sens. Et avoir une date de sortie après les élections européennes, ça fait courir un risque important. Aujourd'hui, je discute beaucoup avec des sociétés américaines, aujourd'hui, qui se disent, l'Europe, c'est les ratios de moins en moins. À tel point qu'aujourd'hui, lorsqu'ils décident un pays de bascule, ils ne choisissent pas un seul pays, hein, ils ne choisissent pas que la France ou que l'Allemagne. Ils sont dans des logiques déjà de multilocalisation, parce qu'ils se disent que aujourd'hui, c'est la Grande-Bretagne qui sort, et peut-être que demain, ce serait l'Italie ou voire même la France. Donc ils sont aujourd'hui dans des logiques de multilocalisation. Et toutes les grandes banques aujourd'hui américaines sont dans cette logique-là. Elles ont une confiance qui diminue vis-à-vis de l'Europe.
Anne-Laure Delatte.
Alors, juste vraiment un point à ajouter, c'est que vous parlez d'une cacophonie au sein de l'UE perçue. Moi, je suis assez surprise parce que justement, s'il y a une négociation dans laquelle on a été plutôt capable d'avoir une seule voix, c'est dans cette...
Non, pas de l'UE, vous avez tout à fait raison.
L'Allemagne, par exemple, a intérêt... aurait tout intérêt à pousser un accord le plus soft possible. Tous ceux qui ont beaucoup d'échanges commerciaux avec le Royaume-Uni avaient intérêt à pousser un accord le plus soft possible.
Donc l'Allemagne et la France en premier lieu.
Non, en fait, c'est les petits pays. Alors l'Allemagne, oui, parce que de toute façon, c'est un gros commercial, mais les petits pays européens. Il se trouve que vous avez à la fois des intérêts qui pourraient être un petit peu divergents, des partis politiques qui sont extrêmement différents au sein de l'Europe. Vous venez de parler d'une montée du populisme. On aurait pu imaginez que des membres de l'Union européenne, du côté populiste, se jouent un peu la division. On n'a pas du tout vu ça. Donc je crois que c'est vraiment un point à appuyer sur la capacité des Européens à se mettre d'accord quand il y a un intérêt commun et que tout le monde a y gagné. Alors tout le monde est là aujourd'hui, tout le monde a à y perdre, plus ou moins, en fonction des accords commerciaux que vous aviez, des relations commerciales que vous aviez avec le Royaume-Uni.
Et alors peut-être que j'ajouterais juste, Mathieu. Oui, c'est que sur l'intérêt commun, certes, il y a un intérêt commun, mais je pense aussi que la stratégie de négociation qui a été justement de séquencer la négociation et de ne pas parler de la future relation économique, c'est ça aussi qui a été un élément important qui a permis de maintenir l'unité à l'intérieur des pays européens, parce qu'effectivement l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays du nord de l'Europe et sont toujours d'ailleurs aujourd'hui plus partisans d'avoir un soft Brexit que d'autres pays comme la France par exemple. Et quand on parle de populisme, je pense qu'il faut quand même que... on utilise beaucoup, je sais, ce mot populisme, mais à l'intérieur de l'Union européenne, la montée des populismes est, je pense, beaucoup plus présente que ce qu'on a vu au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a vraiment un débat de fond, me semble-t-il, mais depuis très longtemps, sur ce que signifie l'appartenance à l'Union européenne. Est-ce qu'on souhaite être un pays qui reste souverain? Est-ce qu'on souhaite entrer dans une union politique? Et depuis très longtemps, une majorité de Britanniques dit non, nous ne souhaitons pas entrer dans une union politique européenne. Nous voulons faire partie d'un marché commun. Et il y a vraiment une perception britannique très spécifique de l'appartenance à l'Union européenne. À l'intérieur de l'Union européenne, on voit une montée des populismes et on verra ce que donneront les élections européennes. Mais si on suit un petit peu quand même ce qui se passe dans un certain nombre de pays, je pense qu'on peut être assez inquiet pour ce qui pourra se passer au moment des élections.
C'était mon point. Alors, il y a une option qui a été envisagée. Si le Royaume-Uni reste dans l'union douanière, il pourrait éventuellement rejoindre l'association européenne de libre-échange qui regroupe la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Alors, quel intérêt il y trouverait? Est-ce que l'idée, peut-être, Jimizu, c'est de gagner du temps pour ensuite négocier un bon accord de libre-échange avec l'Union européenne?
Oui, c'est vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui, on travaille très bien avec la Suisse, mais créer ces relations avec la Suisse, ça a pris quand même beaucoup de temps. Voyez-vous, là, aujourd'hui, ça gesticule beaucoup. On ne voit pas les différents accords, en fait, arriver. Je rappelle, aujourd'hui, l'entreprise a très peur. C'est-à-dire, elles ont très peur parce qu'elles ne savent pas dans quel sens ça va évoluer. Donc, elles ont pris, là, depuis quelques temps, nous, on en a aidé pas mal, justement, pour se dire comment on va réagir en cas de Brexit dur. C'est-à-dire que prenez des grands fabricants de médicaments, ils ont dû créer très très vite des succursales en France pour être sûr que les brevets seraient valables après ce Brexit sans accord. Donc c'est vraiment ça. Vous avez des gens aujourd'hui qui se disent, prenez le cas des banques, beaucoup d'entre elles ont acheté des locaux dans Paris qui sont encore aujourd'hui vides. C'est-à-dire ils ont déplacé ce qu'ils appellent les fonctions essentielles, mais les locaux sont vides. C'est-à-dire ce sont des coûts aujourd'hui, ce sont des coûts perdus, c'est de l'argent perdu. Donc mon point, c'est de dire que aujourd'hui, l'incertitude, ça a un coût qui est très important pour le monde économique. Donc vous avez tous les politiques qui se disent, qui se réunissent, le Parlement britannique ou les communes, ils vous sortent 8 textes, après ils disent que finalement ils ne sont pas d'accord. Franchement, c'est un très mauvais spectacle et qui commence à agacer beaucoup le monde des entreprises.
Est-ce que selon vous, Catherine Mathieu, il faut soumettre un quatrième vote à cet accord du 25 novembre? Et est-ce que s'il était finalement accepté par les parlementaires britanniques, l'effet du Brexit sur la croissance britannique serait à ce moment-là quasiment nul?
Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Alors, je pense que si, du point de vue, si j'étais citoyenne britannique, je pense que je dirais qu'il y a eu un vote et qu'il faut respecter ce vote. Maintenant, du point de vue de l'économiste, la situation la plus favorable pour le Royaume-Uni, c'est de rester dans l'Union européenne parce que les échanges se font de façon tout à fait libre et facile, parce que aussi le Royaume-Uni a la possibilité d'influencer les décisions qui se prennent à l'intérieur de l'Union européenne. Et il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni a, depuis le début des années 80, beaucoup impulsé la libéralisation à l'intérieur de l'Union européenne. Donc en sortant de l'Union européenne, y compris avec cet accord du 25 novembre dont tout le monde dit aujourd'hui, c'est le meilleur accord possible. En fait, le Royaume-Uni accepterait de façon possible de rester dans l'union douanière si on ne trouve pas d'autres solutions pour éviter le retour de la frontière en Irlande. Mais le Royaume-Uni n'aurait plus cette capacité d'influence à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, ça serait une situation moins favorable en termes strictement économiques pour le Royaume-Uni. Mais encore une fois, cet accord du 25 novembre n'envisage l'union douanière que de façon transitoire si on ne trouve pas d'autre façon d'éviter le retour à une frontière. Et en fait, il faudrait, supposons que l'accord soit voté, finalement, que s'engagent les négociations pendant une période de transition courant jusqu'à la fin 2020 ou 2021 sur de nombreux éléments très importants, dont les secteurs financiers, parce que pour l'instant, si l'accord est signé, rien ne changera pour la participation des institutions financières au marché unique européen, mais il faudra négocier de nouveaux accords, et ce sera vrai pour tous les secteurs.
On va voir dans un instant un peu plus en détail quelles pourraient être les conséquences économiques d'un Brexit dur, on en parle juste après ça.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
De Mick Jagger sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. On poursuit notre discussion sur les conséquences économiques du Brexit avec Catherine Mathieu, Jimmy Zou et Anne-Laure Delatte. Et on apprend à l'instant que la France juge prématuré un report du Brexit au 30 juin, comme l'a demandé la Première ministre Theresa May. Alors, quelles pourraient être les conséquences économiques d'une sortie sans accord ? Selon la Banque d'Angleterre, un no deal entraînerait un effondrement de la livre sterling de 25%, une forte augmentation du chômage. Puis il y a aussi le rapport de Goldman Sachs que je citais en introduction et qui prédit, lui, une chute du PIB de 5 points. On a l'impression que tous les scénarios du hard Brexit sont un peu des scénarios catastrophes, Anne-Laure Delatte.
Oui. Bon, en fait, nous, au CEPI, on a fait des estimations aussi. Alors, pour vous donner une vision générale, on estime que les études qui parlent de points de PIB, c'est-à-dire d'une perte permanente, du PIB réel entre 2,5 et 5%, c'est ce qui nous paraît crédible. La Banque d'Angleterre, si je me souviens bien, elle a prédit 8%. Ça nous paraît excessif. En tout cas, d'après les calculs qu'on a faits, nous, on ne voit pas ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est demandé d'abord, dans un premier temps, ce que l'Union européenne avait amené, en fait. Si vous voulez, c'est comme ça qu'on a réfléchi. On s'est dit, bon, alors, on va essayer de calculer depuis les premiers accords, qu'est-ce que ça a amené ? Le premier résultat qui nous semble intéressant, c'est que le marché unique a eu trois fois plus d'effets qu'un accord commercial normal. Le marché unique a doublé le commerce de biens entre les membres. Et en réalité, donc c'est vraiment hyper positif. Alors maintenant, on s'est dit, dans les scénarios possibles, le no deal, qu'est-ce que ça coûterait?
Est-ce que l'économie britannique, oui, serait durement touchée si tout d'un coup les droits de douane augmentaient fortement?
Voilà. Donc on a refait cet exercice. Qu'est-ce qu'apporte l'Union européenne pour le commerce et ensuite l'effet sur l'économie en entier de ces échanges commerciaux. Donc c'est simplement pour dire qu'on n'est pas en train de regarder l'effet sur la livre. En effet, il y a peut-être des choses qu'on a ratées là-dedans, mais en fait on l'a fait de façon la plus rigoureuse possible. Et on estime, nous, qu'on sera à une perte sèche de 2,8% de PIB réel. D'accord, c'est un effet permanent de 2,8% en tout. Donc c'est assez important, hein, c'est-à-dire qu'il y a des marges d'erreur, mais en gros on est autour de 3% pour le Royaume-Uni.
Et ça dépend aussi peut-être des politiques monétaires et budgétaires qui seraient mises en place, le cas échéant.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est vraiment uniquement l'impact commercial. Je crois que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que un des arguments du Brexit, c'était de se dire, les Anglais disaient, on contribue plus qu'on reçoit de l'Union européenne. Donc, si vous essayez de regarder la contribution nette du Royaume-Uni, en fait, personne n'est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est assez surprenant. On n'arrive pas vraiment à trouver des chiffres concordants. Moi, je me fie aux chiffres de l'Union européenne, de la Commission, et en gros, la contribution nette, effectivement, ils donnent un peu plus que ce qu'ils reçoivent, et on est aux alentours de 0,2% de PIB. Mmh. Donc, vous voyez, par an. Donc, ça veut dire qu'il faudra quand même énormément d'années avant de compenser la perte sèche pour l'économie.
Catherine Mathieu.
Oui, par rapport à l'étude de la Banque d'Angleterre que vous citez, je pense qu'on peut peut-être... expliquer un peu comment les différentes études sont faites, c'est-à-dire que pour la Banque d'Angleterre, dans ce scénario très catastrophe, avec une chute de l'activité de l'ordre de 10%, on se place vraiment où du jour au lendemain, l'économie britannique sort sans accord, c'est une grosse surprise sur les marchés financiers, la bourse s'effondre, les taux de change s'effondrent, les marchés de l'immobilier s'effondrent. Donc c'est vraiment le scénario le pire qu'on puisse imaginer. Alors cette étude maintenant est un peu ancienne. Depuis, on a mis en place au Royaume-Uni, comme dans l'Union européenne, un certain nombre de dispositifs d'urgence qui s'appliqueront si le Royaume-Uni sort sans accord. Donc cette sortie sans accord chaotique, comme l'appellent les Britanniques, n'aurait vraisemblablement plus lieu maintenant. On a déjà prévu que, par exemple, pour les opérations financières, tout continue comme avant, même en cas de sortie sans accord pendant plusieurs mois. Bon, et de nombreuses mesures ont été prises aussi pour les vols, dont on nous disait à un moment donné, les avions ne pourront plus voler entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en cas de sortie sans accord. Maintenant, on sait que voilà, on peut le faire. Tout est prévu pour que le trafic aérien puisse être maintenu. Enfin, un certain nombre d'exemples comme cela. Donc, cette étude est vraiment de la Banque d'Angleterre. Elle donne vraiment une fourchette très haute, hein, d'impact d'une sortie sans accord. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres études qui se situent à plus long terme, comme celle que vous avez faite au CEPI, où là, on étudie effectivement un changement d'état. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où le Royaume-Uni est dans l'Union européenne, où il n'y a pas de droits de douane, pas de barrières réglementaires, à une situation où il y a des barrières douanières et des barrières non réglementaires. Donc en fait, on compare deux situations différentes, mais on ne peut pas étudier la trajectoire entre les deux. Et donc on arrive à un impact permanent, comme vous disiez Anne-Laure, qui est généralement compris dans ces études entre 3 et 5%. Alors dans certaines études, il y a de produits intérieurs bruts. Dans certaines études, il y a même des effets qui peuvent être plus importants quand les études ajoutent aussi des effets à long terme via la baisse de l'investissement direct et des baisses de productivité. Donc les études qui aujourd'hui donnent les impacts les plus importants à très long terme arrivent aussi à un chiffrage de 10% du produit intérieur brut. Et des études qui se placent dans un cadre où elles disent finalement on n'aurait pas nécessairement la mise en place de barrières douanières, même en cas de sortie sans accord. Après tout, si demain les Britanniques sortent sans accord, rien ne dit que le jour suivant, les Britanniques et les pays de l'Union européenne ne vont pas se dire, eh bien, faisons un accord pour qu'il n'y ait pas droit de douane. Donc c'est aussi une autre possibilité, qu'on mette en place un accord de libre-échange qui soit en fait un accord sans barrière douanière, auquel aura intérêt à la fois les entreprises britanniques et européennes. Et dans ce cas, on a des impacts sur le produit intérieur brut britannique qui sont quasiment nuls.
Jimmy Zhu, sur cette question d'une sortie d'un Brexit dur.
Oui, mais écoutez, en fait, vous avez dit le point important, c'est qu'en effet, aussi bien la France avec ses ordonnances du 6 février, aussi bien les 15 mesures d'urgence au niveau européen, on s'est recréé quelque part des espaces pour se donner le temps de construire les accords finaux. Je crois que c'est hier ou avant-hier, on expliquait que même les Anglais qui viendraient en Europe, finalement, n'auraient pas de visa. On voit bien qu'on est prêt. Après, la plupart des grandes entreprises ne prennent pas ces études très au sérieux et pour plusieurs raisons, parce qu'elles ont fait leurs propres études finalement. C'est-à-dire, elles, en termes de modèle économique, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait Tom Enders qui disait que bon, voilà, demain, avec les 15 000 personnes qui sont à Luton, qui produisent des ailes d'Airbus, qu'est-ce qui va se passer demain? Il était très catastrophiste. Bon, je prends le cas de Nissan, que je peux vous citer très précisément. Ils ont fait une étude. Qu'est-ce qui se passerait? Que se passerait-il si on transférait la production de la Nissan de la Grande-Bretagne à la France ou ailleurs, enfin, au sein de l'Union européenne. Nissan, c'est 450 000 voitures, c'est 4 000 personnes, pour vous donner à peu près une idée. C'est trois quarts des pièces qui viennent de l'Europe, c'est assemblé en Grande-Bretagne. Après ça, vous avez environ les deux tiers qui repartent après à l'extérieur de l'Union européenne. Mais ils se sont rendus compte, si vous voulez, qu'en reconstruisant l'ensemble des flux à l'intérieur de l'Union européenne, ça prendrait 10 ans à amortir. Donc quand vous prenez 10 ans pour amortir une chaîne de production que vous reconstruisez au sein de l'Union européenne et qu'en même temps, le cycle de vie d'une voiture, c'est plutôt 6 ou 7 ans, on se rend compte que finalement, pour un modèle existant, il vaut mieux rester en Grande-Bretagne plutôt que de partir.
Donc il y a un arbitrage qui doit être fait de la part des entreprises.
Exactement. Donc ça veut dire que pour les modèles existants, mais ça veut dire qu'il vaut mieux rester là où on est, sachant qu'en plus, 6 ou 7 ans, on aura le temps de construire un nouvel accord, probablement, avec la Grande-Bretagne. C'est ce qu'elles espèrent. Donc, voyez-vous, donc, les entreprises refont leurs propres études. Elles ont très peu confiance. Je ne connais pas votre étude.
Elles ont peut-être très peu confiance, justement. La question que je voulais vous poser, Anne-Laure Delatte, c'est aussi peut-être que ce manque de confiance est lié au fait que ces études sont toutes très politiques. Et la Banque d'Angleterre, pardon, ce n'est pas innocent, si son scénario est particulièrement catastrophiste.
Oui, alors, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que s'il y a une chose qu'on devrait tous avoir appris de Trump et du Brexit, c'est que finalement, ces chiffres agrégés, on ne devrait quasiment plus les regarder. Quand je vous dis que ça va nous coûter 2,8% du PIB, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui habite dans les Cornouailles ou en Irlande du Nord? Et ça, c'est eux qui élisent. D'accord? Donc en fait, il y a un coût économique, mais il y a aussi un coût politique. Et c'est ça qu'on n'arrive pas aujourd'hui avec nos modèles à intégrer. Donc les économistes, c'est bien, mais il faut qu'on fasse des choses plus régionales. Par exemple, on parle beaucoup des territoires dans la France des Gilets jaunes, mais en fait, il faut qu'on ait cette vision-là aujourd'hui quand on fait de la macro. Il faut qu'on soit plus territoriaux. Donc moi, je suis extrêmement frustrée de vous donner des chiffres agrégés aujourd'hui. Donc ça m'amène au deuxième point sur la manipulation des données ou manipulation des études, ou alors pourquoi est-ce que une étude est plus ou moins alarmiste. En effet, je pense qu'en tant que citoyen, on doit avoir un réflexe de d'où vient mon étude, qui est-ce qui me sort ce chiffre, est-ce qu'il est en conflit d'intérêt quand il donne cette estimation. Donc c'est vraiment très important de regarder ça. On peut soupçonner à peu près toute institution d'être dans un conflit d'intérêts. Donc voilà, il faut l'avoir en tête. Et ensuite, encore une fois, ces chiffres agrégés, de toute façon, ne veulent pas dire grand-chose. Et je crois que le point important, là, sur le Brexit, une large majorité des Irlandais du Nord étaient contre le Brexit. Et c'est eux qui vont subir les conséquences les plus dures, parce que les chiffres que je vous ai donnés, si on les désagrège sur l'Irlande du Nord, ça va être beaucoup plus important en réalité.
Et comment ça se fait ?
Parce que, en fait, pour eux, l'Irlande du Sud représente une exportation sur trois. L'Irlande du Sud, c'est 60% des exportations qu'ils envoient dans le reste de l'Union européenne. Donc c'était un partenaire hyper important.
Catherine Mathieu.
Alors je vais prendre la défense de la Banque d'Angleterre sur le fait que ce scénario dont on parle beaucoup, qui est très catastrophique, n'est pas ce que la Banque d'Angleterre a retenu dans son scénario central. C'est une étude qu'elle a faite en disant au pire, voilà ce qui pourrait se passer. Mais dans les prévisions qu'elle fait régulièrement et qui servent de base à ses décisions de politique monétaire, elle retient jusqu'ici le scénario où il y aura une sortie avec accord. Donc ça n'est pas son scénario central. d'une part. Alors ensuite, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Anne-Laure, sur le fait que bon, les chiffres agrégés ne signifient pas grand-chose. Et effectivement, vous mentionnez le cas d'Irlande. On pourrait aussi mentionner le fait que dans le vote de 2016, par exemple, ce sont dans les régions qui ont été le plus frappées par la mondialisation au Royaume-Uni, notamment les régions où on produit de l'automobile, qu'on a voté le plus en faveur du Brexit. Et qu'aujourd'hui, alors que les constructeurs automobiles disent « attention, pour l'instant on maintient nos investissements, on n'envisage pas nécessairement d'augmenter, on voit qu'il y a des menaces de fermeture de sites », les sondages montrent que toujours dans ces régions-là, les gens continueraient à voter pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc il y a effectivement un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte dans ce vote et qui reflètent une réalité des territoires où les perdants de la mondialisation, effectivement, se sont largement prononcés en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, alors que dans la campagne de 2016, le gouvernement d'alors, de David Cameron, avait vraiment beaucoup mis en avant justement les chiffrages des institutions internationales, en premier de l'OCDE, du FMI et aussi du gouvernement britannique, en disant « attention, si vous votez pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, cela aura un coût économique ». Cet élément a été martelé tout le long de la campagne par les partisans de rester dans l'Union européenne. Et cet élément n'a pas suffi à convaincre une majorité de Britanniques de rester dans l'Union européenne.
Alors, il y a un autre élément qui est important aussi, c'est la question de l'impact économique du Brexit, quel que soit le scénario qui existera sur l'Union européenne. Et on peut se demander quels seront les pays les plus touchés. On a commencé à esquisser un petit peu la carte de la géographie des pays touchés. Vous estimez dans votre article, Catherine Mathieu, que le choc pour l'Union européenne sera environ 20% du choc qui représenterait pour le Royaume-Uni.
Oui, alors ce pourcentage est tout simplement calculé en fonction de la structure des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne aujourd'hui.
Et alors, ce qu'on constate, c'est que la France aurait particulièrement des difficultés, Jimmy Zhu, même si c'est peut-être moins le cas que l'Allemagne et d'autres pays européens, mais parce que le Royaume-Uni, c'est l'un des seuls pays avec lequel la France a un excédent commercial.
Exactement. La France qui déficite partout, un excédent commercial avec le Royaume-Uni, c'est vrai. En même temps, la France se dit qu'en même temps, en cas de relocalisation, peut-être des services financiers, elle aurait peut-être aussi une place à jouer. Je rappelle quand même que dans les 15 premières banques européennes, vous avez 5 françaises. Je rappelle également que la première de ces 15 banques, qui est HSBC, a choisi de faire de la France son hub européen. Donc voilà, donc c'est quelque part. Donc après, il faut mesurer tout cela.
En fait. Et en même temps, il y a une vraie inquiétude que le Royaume-Uni devienne une place, un paradis fiscal et réglementaire. Et il pourrait le faire en cas de hard Brexit, en l'occurrence.
Enfin, on peut imaginer que c'est ce qui se passerait, étant donné la suprématie aujourd'hui de la place financière de Londres. Si demain, effectivement, il n'y a pas d'accord, et si après-demain on met des réglementations très contraignantes pour les banques britanniques, on imagine bien nos amis britanniques dire, eh bien, nous allons davantage déréguler, davantage faciliter les activités. Et certes, l'Union européenne est très importante pour les activités britanniques, mais dans le domaine financier, le reste du monde l'est aussi.
Et c'est d'ailleurs ce que cherchait à empêcher l'accord du 25 novembre, Anne-Laure Delatte.
Oui, alors juste quelques chiffres, toujours de l'étude CEPI. Bon, on s'est amusé à le faire pour chaque pays. Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est une baisse pour la France de moins 0,3%. Hein, donc à comparer aux 2,8 pour le Royaume-Uni. Et en fait, la France est parmi ceux qui... on est assez homogène en réalité, à part, vous voyez, Malte, ça lui coûterait 2% du PIB, mais sinon l'Allemagne est à 0,4. Donc en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est quand même que c'est les Anglais qui vont souffrir en premier. Donc nous, ça va nous coûter un petit peu, mais c'est eux qui vont souffrir le plus. Après, sur la finance... certes, on a fait un rapport du CAE là-dessus il y a 2 ans, et certes, il y a ce danger-là, le danger que le Royaume-Uni prenne le tournant d'un grand paradis fiscal. Je crois qu'on est aujourd'hui dans un environnement international qui rend les choses un peu plus compliquées. Et notamment, alors d'une part, s'ils sont dans une union douanière, ils ne pourront pas faire Singapour sur Tamise, si vous voulez, ce sera pas possible.
Mais dans le cas d'un Brexit dur,
et dans le cas d'un
Brexit dur, ce serait étonnant qu'ils ne le fassent pas, comme disait Catherine Mathieu.
Oui, mais on n'est plus dans le même environnement international qu'avant 2008. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la lutte contre l'évasion fiscale, elle est relativement concrète. Si vous voulez que ça soit du côté de l'OCDE, du côté de l'Union européenne elle-même, du côté des Américains, Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être un paradis fiscal qu'il y a encore une dizaine d'années, même s'il y a encore énormément de choses à faire, hein, bien sûr.
Et même s'il y a encore beaucoup de paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, hein, Catherine Mathieu.
Et je pense qu'il faut quand même tout de même dire que cette union douanière ne porterait que sur les échanges de marchandises. Tout serait à discuter sur la question des services. Hein. Donc cette union douanière permettrait effectivement de régler le problème de la frontière irlandaise, où transitent des marchandises et des personnes, mais ça, la question est déjà réglée par ailleurs. Mais la question des services financiers ne ferait pas partie du tout de cette union douanière.
Oui, exactement. Oui, vous avez tout à fait raison. Et la perte de ce fameux passeport, hein. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui. Là, pour le coup, je pense qu'il y aura une unanimité au niveau des 27 pour ne pas accorder ce passeport à l'Union au Royaume-Uni. Mm. Le point également, moi, je ne crois pas tellement au Royaume-Uni qui vous crée un paradis fiscal, puisque aujourd'hui, en effet, les temps ne sont plus à ce type de méthode. Voilà. Mm. Même les pays les moins vertueux ne font plus ça.
Dernier mot, peut-être, Catherine Mathieu, sur la relation future qui pourrait se dessiner entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le sommet de crise de l'Union européenne prévu mercredi prochain devrait peut-être apporter certaines réponses.
Je dirais qu'aujourd'hui, alors qu'on a une semaine effectivement de ce sommet, c'est toujours une grande inconnue. On a du mal à imaginer quel accord va pouvoir être proposé par les Britanniques qui serait aussi acceptable par les pays de l'Union européenne. Et pourtant, il faut absolument trouver cet accord, étant donné l'importance de nos relations économiques, mais aussi politiques avec le Royaume-Uni.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Anne-Laure Delatte, Catherine Mathieu, Jimmy Zou. On va évidemment continuer à suivre les prochains épisodes de ce Brexit de près. Mais pour l'heure, il est 14h45 sur France Culture. Et il est temps de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Et comme chaque semaine, on vous propose un essai qui a marqué la pensée économique ou les sciences sociales. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'économie comportementale avec Richard Thaler et son ouvrage « Misbehaving ». Bonjour Gunther Capel-Blancard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeur également à la Paris School of Business. Alors vous vous souvenez peut-être de la courte apparition de Richard Thaler dans le film The Big Short, le casse du siècle d'Adam McKay, sorti en 2015. L'économiste américain, né en 1945, qui expliquait le fonctionnement des CDO synthétiques, ces titres financiers, aux côtés de Selena Gomez. Richard Thaler, qui est considéré donc comme l'un des pères de l'économie comportementale, économie qui a contribué à achever l'homo economicus et sa rationalité supposée.
Oui, hein, l'objectif de Richard Thaler, dès le début de sa carrière, c'est de dénoncer cette hypothèse qui est cruciale, hein, qui est fondamentale pour les économistes, cette hypothèse de rationalité. Hein, le terme que vous employez, c'est vraiment le bon terme. Hein, on parle d'homo economicus. L'homo economicus, c'est cet agent un peu fictif qui est parfaitement rationnel, qui est parfaitement informé, qui anticipe à long terme, ce super-héros un peu.
Et alors avant lui, plusieurs économistes avaient ouvert la voie de l'économie comportementale. On peut citer Herbert Simon, Daniel Kahneman et puis plus tard Peter Diamond, Alvin Ross et Robert Shiller. Il s'inscrit dans la continuité de ces économistes dont beaucoup ont reçu d'ailleurs le prix Nobel de l'économie comme lui le recevra en 2017.
Alors c'est vrai que c'est pas le seul à avoir fait de l'économie comportementale. Vous avez cité d'illustres chercheurs hein, qui mêlent économie et psychologie. Mais je crois que ce qui caractérise Richard Thaler, c'est qu'il a réussi à introduire ces éléments de psychologie au cœur de l'édifice.
Et justement, dans son livre Misbehaving, qui est plutôt une autobiographie intellectuelle, il raconte tous les combats de l'économie comportementale pour s'imposer dans ce milieu particulièrement difficile et hostile.
Oui, c'est ça. Hein. C'est une autobiographie qu'il a voulu faire. Hein. C'est pas un traité d'économie, c'est pas un essai. Il a voulu raconter, comme vous le dites, ce combat. Ce combat qu'il a livré pendant 40 années pour imposer, eh bien, une révolution hein, au sein de la finance. Il parle lui-même de révolution, pourquoi ? Parce que c'est vrai que pendant les années 60, 70, 80, l'économie était très axée sur cette hypothèse d'ultra-rationalité, l'économie était très mathématisée, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein, d'où le terme révolution. Au départ, hein, chez Adam Smith notamment, on parle beaucoup des émotions, de la morale. C'est des choses qui étaient présentes initialement et qui ont peu à peu disparu pour laisser place donc à ces modèles très formalisés. Et lui prône pour un retour justement à ces concepts qui sont importants.
Alors Richard Thaler va également contribuer à remettre en question la théorie de l'efficience des marchés. Que dit cette théorie d'abord et comment sera-t-elle battue en brèche par Richard Thaler ?
Alors, c'est vrai que Richard Thaler va s'intéresser à ces concepts d'efficience. L'efficience, c'est un concept clé en finance. Alors pourquoi il s'intéresse à la finance? Au départ, c'est un économiste. Il s'intéresse à la finance parce qu'il se dit la chose suivante. Si j'arrive à démontrer que sur les marchés financiers, où les enjeux sont extrêmement importants, c'est des millions, des milliards de dollars, où les agents qui interviennent sur ces marchés sont très informés, sont bardés de diplômes. Si j'arrive à montrer qu'il y a un peu d'irrationalité dans ce champ, dans ce secteur, alors je pense que je serai très convaincant. Donc de la même manière qu'il va à l'université de Chicago pour donner du crédit à ses travaux, il se dit, voilà, je vais m'intéresser à la finance. Donc au moment où il s'intéresse à la finance, on est à l'apogée de la théorie de l'efficience des marchés. Qu'est-ce que ça signifie? L'efficience des marchés, ça signifie tout simplement que les marchés fonctionnent bien, parfaitement. L'efficience, c'est l'efficacité optimale. Il y a une optimalité sur les marchés financiers qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et comment on démontre cela? Eh bien, pour appuyer cette démonstration, les universitaires de Chicago, la théorie standard, met en avant le fait que sur les marchés, les prix sont imprévisibles. Si vous n'êtes pas capable de battre le marché, c'est que le marché est plus fort que vous. Et c'est en ce sens qu'il est efficient.
Avec cette idée aussi que le prix sur les marchés est le prix qui correspond à la valeur.
Alors, c'est bien là où il y a une subtilité. Effectivement, tout le monde va être d'accord pour dire qu'il est extrêmement difficile de battre le marché. Vraiment extrêmement difficile. Et les partisans d'efficience en déduisent de fait que les prix donc reflètent les fondamentaux. Et Richard Thaler va reprendre ces deux propositions et va dire « mais ces deux propositions ne sont pas liées ». Effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il est difficile de battre le marché. Pour autant, ça ne veut pas dire que les prix reflètent les fondamentaux. Les prix sont parfois très éloignés des fondamentaux. Et il va réaliser quelques expériences qui vont convaincre vraiment tout le monde de cette inefficience des marchés.
Mais alors justement, quelles sont les expériences qu'il met en place? Comment est-ce qu'il va prouver cette inefficience dont vous parlez?
Alors, il a réalisé une expérience qui est très drôle. Il a utilisé pour cela un jeu qu'il a proposé au Financial Times. Donc évidemment, personne parmi les lecteurs du Financial Times n'était au courant. L'idée, c'était de choisir un nombre entre 0 et 100. Avec l'objectif de deviner quels seraient les deux tiers de la moyenne des chiffres choisis. Alors ça peut paraître très abscon. Je vais prendre un exemple.
Il faut imaginer ce que les autres estiment et prédisent.
Exactement. Si vous permettez un exemple, je pense que ça pourra simplifier plus pour l'auditeur. À l'oral, c'est pas évident. Imaginez que tous les auditeurs jouent à ce jeu et donnent des chiffres. Celui qui gagne, c'est celui qui s'approchera donc des deux tiers de la moyenne. Donc, si les gens donnent des chiffres au hasard, la moyenne entre 0 et 100, la moyenne c'est 50. Et donc, l'auditeur qui sera le plus malin, ce sera celui qui donnera le chiffre 33. Mais cet auditeur qui pense à 33 de manière très rationnelle doit aussi intégrer le fait que, autour de lui, les gens ne vont pas forcément répondre au hasard. Et donc, les gens, s'ils sont rationnels, vont aussi répondre 33. Et si tout le monde répond 33, la moyenne c'est 33, et pour gagner, il faut donner deux tiers de la moyenne, donc 22. Et puis, on peut avoir le raisonnement avec une étape, deux étapes, n étapes. Au final, on converge vers ce qu'on appelle, nous, en économie, un équilibre de Nash. Nash est un mathématicien assez illustre, il y a un film qui rend hommage à ses travaux. L'équilibre de Nash est un équilibre important en économie, et en l'occurrence, cet équilibre c'est 0. Si on est parfaitement rationnel, faut donner 0, parce que c'est le résultat vers lequel on devrait converger si tous les gens sont rationnels. Sauf qu'en pratique, il met en place ce jeu dans le cadre du Financial Times, et les gens ne répondent pas 0. On a des gens qui vont répondre leur date d'anniversaire, on a des gens qui vont répondre complètement au hasard, et le gagnant, en fait, le chiffre gagnant, c'est 13. Donc on est très éloigné du résultat optimal si tous les gens étaient rationnels. Et la conclusion de tout à l'heure, c'est finalement de dire, qu'est-ce qui est rationnel? C'est adopter le raisonnement d'un économiste ou gagner? Gagner, c'est finalement ce qu'il y a de plus rationnel. Et pour gagner, eh bien, il faut introduire une dose de psychologie dans son raisonnement.
Et donc, il faut postuler que les autres peuvent être irrationnels ou au contraire que si tout le monde est rationnel, ça ne marche plus?
Alors, il ne s'agit pas tant de postuler que les autres sont irrationnels, mais simplement de dire que les autres peuvent se tromper. Vaut mieux prendre en compte les erreurs commises par les autres, anticiper ce que les autres peuvent commettre comme erreur, plutôt que d'essayer absolument d'avoir raison. Et on a plein d'exemples, évidemment, lors des bulles spéculatives. Quand il y a une bulle spéculative, si, en tant qu'économiste, moi, je suis convaincu qu'il y a une bulle spéculative, rationnellement, je devrais être amené à vendre, pour profiter donc de la crise qui va succéder à la bulle. Mais ce serait une erreur de ma part. J'ai tout intérêt, au contraire, à profiter de la bulle spéculative, même si je pense que les autres ont tort.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, ce faisant, Richard Thaler réfute finalement l'approche d'inspiration darwinienne qui est basée sur la sélection naturelle et qui sous-tend une bonne part de la théorie économique néoclassique.
Exactement. C'est un élément vraiment fondamental de la théorie économique. On se dit que tout le monde n'est pas parfaitement rationnel sur les marchés ou dans l'économie, mais c'est ceux qui sont plus rationnels qui vont perdurer, qui vont subsister. Donc même si tout le monde ne l'est pas, au final, c'est les agents rationnels qui comptent.
Et alors dans les années 2000, Richard Taylor théorise avec le juriste Kassenstein le concept de nudge, que l'on peut traduire par coup de pouce, et qui est l'un des outils d'intervention du paternalisme libertarien que promet Taylor.
Oui, non seulement Richard Taylor donc, a des travaux théoriques, mais en plus, il va essayer de proposer des recommandations en termes de politique économique. Donc son point, je vous l'ai dit, hein, c'est les agents se trompent. Eh bien, on va essayer de tirer parti de ces erreurs. On va tirer parti de la paresse des individus. Par exemple, dans le cas des produits d'épargne, aux États-Unis, vous savez que l'épargne est moins gérée par l'État qu'en France, par exemple. Donc, les salariés sont invités à épargner. Mais les démarches sont un petit peu lourdes. Donc, on peut construire un système où on impose aux salariés d'épargner pour leur retraite, avec toutefois cette option qu'ils ont de se retirer du programme.
C'est d'inciter tout en laissant la liberté.
Exactement. Vous parliez tout à l'heure de paternalisme libéral, c'est bien ça. On va inciter les individus à adopter certains comportements sans les contraindre. Hein, c'est une voie à mi-chemin entre bien du dirigisme étatique et le libéralisme. Hein, et c'est la voie que prône Taylor, c'est le nudge.
Et alors justement, quelle politique publique ça a inspiré? Je crois qu'il y a des exemples à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Alors il y en a aux États-Unis, il y en a au Royaume-Uni, il y en a partout. Et il y a même des initiatives privées. Par exemple, récemment, il y a une initiative mise en place par beaucoup de banques, qui est très courante. Quand vous vous rendez chez un commerçant maintenant et que vous payez en carte bleue, vous avez cette option d'arrondir chacune de vos transactions. Donc vous allez au Monoprix, vous avez pour 43,85 €, eh bien on va arrondir à 44 €, et la différence ira sur votre compte épargne. C'est une façon de se forcer à épargner.
Mais en termes de politique publique, le nudge a plus été utilisé par Barack Obama par exemple, ou par les conservateurs britanniques, qu'en France. On a peu d'exemples en France de politique publique liée au nudge.
Alors, c'est évidemment plutôt d'inspiration anglo-saxonne, puisque c'est quand même basé sur une forme de libéralisme. En disant cela, on soulève une des critiques qui est souvent adressée au nudge, c'est que ce sont pas des politiques d'envergure. Hein. Il s'agit d'une politique à petits pas. On va essayer d'améliorer les choses petit à petit. Donc, c'est pas très spectaculaire. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément en tête d'exemple incroyable à donner. Mais bon, dans l'esprit de tout à l'heure, c'est en avançant à petits pas qu'on change le monde.
Et en même temps, on voit bien les dérives possibles d'un système pareil. C'est un concept qui peut être utilisé par l'État aux dépens des citoyens ou par l'entreprise aux dépens des employés.
Bien sûr, c'est une autre critique, vous avez tout à fait raison, c'est de la manipulation. Mais ce coup-ci, on manipule dans le bon sens. Le nudge, même si on n'utilise pas ce terme, mais c'est du marketing au fond. Par exemple, on nous incite fortement à nous abonner à des services à long terme, parce que on sait que finalement les consommateurs ont rarement le courage de se désabonner. C'est du nudge à l'envers. Donc l'idée du nudge, c'est d'essayer de faire ça pour améliorer le sort des gens plutôt que pour profiter d'eux.
Comment est-ce qu'on peut résumer ce que Richard Taylor a apporté à la théorie économique, puisque la question qui se pose aussi, c'est est-ce que la boîte à outils du chercheur a véritablement été modifiée en profondeur?
Oui, donc sur le fond, ce qu'il introduit, c'est cette idée que les individus font des erreurs et pour autant, c'est pas irrationnel. On peut rationnellement faire des erreurs. Par exemple, le mimétisme, c'est parfaitement rationnel. Souvent, on considère ça comme une forme d'irrationalité à tort. Hein, ça peut être utile de copier sur son voisin, ça peut être utile de copier certains investisseurs sur les marchés. Et puis, il a eu aussi un impact important sur la méthode en économie. Pendant longtemps, c'est 20-30 dernières années, l'économie devenait de plus en plus sophistiquée. Hein. C'était une discipline qui devenait de plus en plus mathématique. Aujourd'hui, c'est pas le seul, mais il y a davantage de pluridisciplinarité. Hein. Il y a l'introduction de la psychologie. D'autres économistes, Thomas Piketty notamment, hein, va plutôt faire appel à des approches historiques. Donc il y a plus un mélange des genres et Richard Taylor a contribué à cela. D'ailleurs, Richard Taylor le dit lui-même, hein, au-delà des grandes théories, ce qui est le plus important, c'est les anecdotes, c'est les histoires, c'est les anomalies. Et tous ces travaux de recherche qui ont été pourtant publiés dans les meilleures revues, les revues les plus prestigieuses, c'est toujours basé sur des idées très simples, des calculs très simples, des histoires très simples.
Et en même temps, aujourd'hui, quels sont les signes qui prouveraient que l'économie est bel et bien traversée par les sciences sociales, par la psychologie? Est-ce qu'il n'y a pas au contraire une persistance de cette idée d'un homo economicus rationnel?
Alors, vous savez, il y a un délai entre la recherche et les applications. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que dans les principales revues, les revues les plus prestigieuses, il y a énormément de travaux qui empruntent la direction ouverte par Richard Thaler et d'autres. Comment ça se traduit sur les politiques économiques? Vous me posiez la question tout à l'heure. Comment ça se traduit au quotidien? C'est encore un petit peu tôt pour avoir une traduction importante.
Merci beaucoup, Gunther Cappel-Blancard, de nous avoir fait découvrir cet ouvrage de Richard Thaler. Misbehaving, sous-titré Les découvertes de l'économie comportementale, a été publié aux éditions du Seuil. Un grand merci. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. On se retrouve lundi à 14h pour une semaine consacrée à l'économie de l'aviation. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.